Bon mardi à tous. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. On va passer les deux prochaines heures ensemble. En entrevue sans filtre, aujourd'hui, vers 11h30, je reçois l'humoriste animateur Pierre Hébert. Vous savez que dans quelques jours, ce sera le gala Les Oliviers et c'est lui, entre autres, qui est à l'animation. Alors, nous aurons l'occasion de poser toutes sortes de questions à Pierre. Ça devrait être pas plate du tout, cette entrevue-là. Comme d'habitude, vous pourrez écouter nos entrevues sans filtre également sur le site du 98.5. Je peux pas commencer cette émission sans revenir sur ce cas de rage au volant extrême hier après-midi sur l'autoroute 40. Je pense que tout le monde a été étonné, choqué, troublé, frustré de voir ça. Parce qu'on se dit, voyons donc, ça se peut pas en venir là, sortir une arme à feu. Déjà là, il y a un geste ici qui est commis, qui est illégal, hein, à moins d'avoir un permis de port d'armes. Mais dans ce cas-ci, puis je tiens à préciser d'ailleurs d'entrée de jeu qu'on cherche toujours la personne qui serait l'agresseur ici. Un jeune livreur, Monsieur Livre-Tout, qui allait pas assez vite au goût de l'autre qui le suivait. Coudon, pousse-toi. Attends, je vais sortir mon gun. C'est quoi? On se pensait aux États-Unis hier. Sincèrement, moi, je trouve ça épouvantable et je sais que vous êtes beaucoup à penser ça aussi. Vous êtes sans doute aussi nombreux à avoir déjà été l'objet de gens extrêmement pressés. Tu sais, des fois, ils sont tellement pressés, t'as envie de dire, coudon, prends l'avion si t'es obligé d'être si rapide que ça. On peut pas aller plus vite. Avez-vous remarqué aussi quand la lumière vient de changer? Quand ça passe du rouge au vert? Hé, t'as intérêt à décoller vite, là. Parce que t'es mieux d'avoir une voiture, là. Puis là, je pense toujours à mon ami Benoît Charrette, bien sûr, qui, à chaque fois, me dit, faut que les voitures au Québec, ça décolle sur un moyen temps, parce que le monde est pas patient. Puis c'est vrai, le klaxon, trop grande utilisation du klaxon. Tu sais, des fois, tu te cherches des affaires à interdire. Ça, par exemple, ça pourra en être une. Mon Dieu, que les gens... Moi, ça me fait sauter dans ma voiture. Bref, on va parler de ça. Est-ce que je vais vous poser la question? Est-ce que vous avez déjà été victime de rage au volant? Pour nous le dire, vous, bien sûr, vous faites le 514-790-9850. Et à l'extérieur de Montréal, sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Il est avocat criminaliste. Walid Hijazi est avec moi. Merci d'être là, Walid.
Bonjour.
François Doré, policier à la retraite. Bonjour, François.
Bonjour Isabelle.
Qui a déjà été en charge de la circulation, qui a déjà été témoin, puisque comme patrouilleur, tu en as vu quelques fois des cas de rage au volant. Est-ce qu'on a raison d'avoir l'impression, François, qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant?
Ben, non seulement c'est pire qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de personnes, beaucoup moins de fluidité, beaucoup plus d'impatience. Et à l'époque, Isabelle, les cas de rage au volant, ça se réglait entre deux conducteurs qui, bon, en venaient au coup, et ça se terminait là. Ça portait pas nécessairement plainte à la police.
Mais là, c'est rare avec une arme, là, quand même.
Ah oui, c'est excessivement rare. Et c'est à se demander s'il n'y a pas une espèce de phénomène d'américanisation où l'utilisation de l'arme à feu devient de plus en plus populaire. On le voit en Ontario, l'arme à feu aux États-Unis, là au Québec, on vient de le voir hier. Mais encore faut-il que ce soit vraiment un cas de rage au volant. Là. Est-ce qu'il y a autre chose? Quand on arrêtera le suspect, on va peut-être le savoir.
Oui, parce que là, pour le moment, aucun suspect n'a encore été arrêté dans ce dossier-là. Walid Hijazi, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé hier.
Oui, c'est presque quand je suis... Ça me... comment dire, me confirme dans le choix de vie que j'ai fait d'abandonner la voiture. J'ai fait un choix de vie de déménager près du travail pour ne plus conduire. J'entrais dans ma voiture, j'étais de bonne humeur, je me stationnais, je ne l'étais plus. C'est très difficile de conduire à Montréal, surtout depuis quelques années. Mais ici, il y a un coefficient additionnel là, qui est particulièrement perturbant. Alors, de façon générale, conduire à Montréal, c'est dur, et la rage au volant, c'est un phénomène perturbant. Mais ici, moi, ce qui m'a renversé, c'est que monsieur a sorti une arme à feu. Là. Qu'est-ce qu'il faisait avec une arme à feu, premièrement? Qu'est-ce qu'il faisait avec une arme à feu dans sa voiture?
Ouais.
Et il conduisait dans un état d'émotivité tel qu'au premier incident d'inconfort sur la route, il sort son arme. C'est perturbant, c'est sûr.
Puis, à moins d'avoir un permis de port d'armes, mais dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut...
Ouais, il s'en allait où? Est-ce qu'il s'en allait à l'achat? Je comprends, c'est une arme de poing. Là. Il s'en allait pratiquer au tir. Qu'est-ce qu'il faisait avec une arme? Qu'est-ce qu'il faisait avec une arme dans sa voiture à ce moment-là?
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut supposer que c'est quelqu'un qui a des activités criminelles?
Ben là, c'est présomptueux. On n'en a aucune idée, sauf qu'il est clairement facilement, comment je veux, émotivement instable. Si oui. Au moindre épisode de rage au volant, il sort une arme à feu, là, c'est j'ai l'impression qu'on part, on fait affaire avec quelqu'un qui n'a pas mesuré les conséquences de ses gestes, vraiment. Ou je sais pas. Ça a l'air, il était dans un état d'esprit particulier. Quoi qu'il en soit, si jamais on le trouve, on est bien au-delà de la rage au volant ici. Si on le trouve, il va être accusé de tentative de meurtre, vraisemblablement. C'est pointer une arme à feu vers quelqu'un et tirer, c'est une tentative de meurtre, c'est du pénitencier, c'est très grave.
Wow. On a avec nous Roger qui a déjà été victime de rage au volant. Bonjour Roger.
Bonjour, oui, c'était au coin de Christophe Colomb et Jarry. Je suis sur un arrêt. À un moment donné, je reçois des coups de poing sur mon auto du côté où je conduisais. Et quelle langue c'était, j'ai aucune idée. J'ai appelé tout simplement la police. Je l'ai suivi un petit bout de temps. La police a dit surtout ne le suivez pas. Et elle m'a téléphoné dans l'après-midi. Elle a dit vous avez frappé tout un caractère, en tous les cas.
Ils avaient retrouvé la personne, c'est ça?
Oui, ils l'avaient retrouvé. Puis, comme je vous dis, on m'a dit c'était tout un caractère. Pas parlable, ainsi de suite. Elles lui ont donné un avertissement, en tous les cas. Alors, c'était mon histoire, mais on ne sait jamais ce qui peut nous arriver.
Ah non, puis vous savez, il y a des gens, on est tenté des fois, là, parce qu'il y a toutes sortes de gens, c'est sûr, sur la voie, sur la route. Et parfois, il y a des gens qui ont le don de venir nous... Hein? Des fois,
oui,
on peut
ça,
avoir ce genre de tempérament et être tenté de sortir de son véhicule. Oui. À ne pas faire. Je pense
non,
qu'il faut le dire, ça.
Plus que ça, je suis avocat criminaliste. J'ai dans ma pratique régulièrement des gens qui ont... C'est un phénomène récurrent. Là. C'est un phénomène social qu'on voit souvent, la rage au volant, malheureusement. Personnellement, je pense qu'on a tous vécu des épisodes où on s'impatiente beaucoup plus rapidement qu'on s'impatienterait dans la vie normale lorsqu'on conduit. Mais ce qu'il faut savoir, et là, c'est l'avocat qui parle, si on a des problèmes avec la justice, si on est éventuellement accusé de voies de fait ou de méfaits, c'est-à-dire avoir donné un coup de pied sur la voiture, dans un contexte de rage au volant, la justice, elle est très sévère. À même quelqu'un qui a une bonne vie sans antécédent judiciaire, la situation se comprend un peu. Quelqu'un à cravate qui n'a pas d'histoire avec la justice normalement peut se retrouver 30 jours, 45 jours en prison. Là, les juges ordonnent souvent de la détention parce que c'est un phénomène qui est important, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un phénomène qui s'exacerbe en ce moment vu les conditions routières là quand même. Mais on veut lancer le message que c'est inacceptable. Alors on met au niveau de la peine l'accent sur la dissuasion personnelle générale, l'exemplarité. On veut lancer le message que la justice n'accepte pas la rage au volant.
Oui. Et donc, les gens qui sont des intimidateurs ou des violents sur la route peuvent avoir jusqu'à combien de...
Là, ça va varier d'une cause à l'autre, selon la gravité objective d'une situation versus une autre. Mais je regardais ça avant de venir faire le micro ici. Et règle générale, même dans des incidents sensiblement banals, mais s'il y a eu coup de poing au méfait, j'ai vu 30 jours, 45 jours régulièrement. Et moi, dans ma pratique, lorsque j'ai quelqu'un qui est sans histoire, qui est une bonne personne, mais qui a vécu un épisode de rage au volant, ça devient très difficile parce que les procureurs sont sévères. Je sais que les juges, si jamais on n'a pas une suggestion commune et que le juge doit trancher, la justice, la jurisprudence l'exige qu'il soit sévère. Et alors, si je veux avoir une absolution, une probation, quelque chose qui est non privatif de liberté, c'est très difficile.
François, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, tout à fait. On parle beaucoup de rage au volant, on parle beaucoup de ses conséquences, et je suis d'accord avec Maître Jazzy, les sentences sont très sévères. Mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'au Québec, on n'apprend pas la courtoisie au volant. Ça s'enseigne
c'est
pas
vrai.
D'aucune façon, dans aucune école de conduite. Oui, il y a toujours des moments d'impatience, oui, c'est possible, et je salue Maître Jazzy pour avoir abandonné la voiture. Mais on n'enseigne pas la courtoisie comme telle. Et des cas, il y en a un peu partout. J'ai fait aussi mes recherches ce matin. Je remercie les gens qui m'ont aidé pour m'apercevoir qu'il y a quelques années de ça, la Sûreté du Québec avait instauré un programme que si on constatait quelque chose, il fallait le signaler. Et on en était venu à la conclusion au bout d'une année, bon, fin des années 90, début des années 2000, qu'à certains moments, sur certaines routes, oui, il y avait plus de comportements fautifs, d'infractions, des gens qui prenaient l'accotement, des gens qui circulaient trop près. Et on remettait à ce moment-là, et Isabelle, vous allez peut-être vous en souvenir, une balle de caoutchouc mousse là, pour passer évidemment une crise de nerfs, si on veut.
Ouais.
Ça n'existe plus, ça. Donc, cette courtoisie-là, il faudrait qu'elle soit enseignée au départ. C'est une question d'éducation. Et au niveau des cas précis, j'ai même trouvé un octogénaire de Jonquière qui avait été accusé de voies de fait armées parce qu'il se promenait à 30 km/h dans une zone de 30 km/h. qui a obtenu une absolution inconditionnelle, bien sûr, mais il a quand même arrêté et il a sorti un bâton de sa voiture pour frapper le conducteur qui le suivait de trop près. C'est une question d'éducation, c'est une question de tolérance aussi.
Mais on a vu déjà des cas, moi, je me souviens plus de la date, là, mais je me souviens qu'il y en avait un qui avait sorti une hache. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il était monté sur la voiture, je pense, sur le véhicule même, puis il avait attaqué l'autre avec une hache, tu dis, voyons, ou une scie à chaîne, c'était, en tout cas, un outil.
Ouais, tu parles d'un cas dans les Laurentides où ça avait été pris en vidéo, où l'homme s'était rendu, je crois, dans un cul-de-sac, il était revenu, et les gens qui le suivaient, un homme, une femme, et je me demande s'il n'y avait même pas un enfant aussi dans le
coup. Oui, exactement. Et... Non, mais attends, écoute, là, faut se calmer, là. Prenez votre gaz égal, le monde, là, ça n'a plus de bon sens, là. Et puis, je vais aller à Daniel, nos lignes sont pleines là-dessus. Je vous demande si vous avez déjà été l'objet de rage au volant, victime d'un enragé sur la route, ou si également, puis on vous juge pas ce matin, parce qu'on peut l'être des fois tous frustrés aussi. Hein, on ne juge pas personne. Évidemment, si tu sors ton arme, on va te juger. Ça, c'est sûr, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais des fois, on peut se sentir frustré par le comportement d'un automobiliste. Et c'est vrai que, regardez, là, je viens de faire sortir des chiffres. Il y a une enquête qui a été réalisée en 2015 où on dit que c'est beaucoup de monde quand même. C'est le tiers des Canadiens qui disent avoir été déjà l'enragé au volant.
Oh oui.
Au moins une fois par mois, tu peux être celui qui enrage, qui peste, et les raisons sont nombreuses, puis on les connaît. Les gens qui te talonnent de trop près, ça a le don de vous taper ses nerfs.
Ça rentre dans la catégorie rage au volant. Ça, ça, c'est inacceptable.
La distraction au volant. Le monde distrait, ça t'énerve. Fait que là, ça te fait enrager. Le fait de se faire couper, ça gosse le monde. Ça les enrage. Mais il y a ça aujourd'hui. On sait que les gens, parfois, dans ce cas-ci, là, on dit que le jeune livreur là, de M. Livetout, c'est un jeune de 23 ans. Imaginez, le gars aujourd'hui, il a reçu une balle. Tout ça parce qu'il connaissait pas beaucoup le chemin, puis il cherchait son GPS. Est-ce qu'on peut donner un peu de corde aux gens?
Il y a personne qui, lorsqu'il prend la route, se dit « je suis peut-être à risque de me faire tirer dessus ».
Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'allais parler à Daniel, mais on va aller à la pause tout de suite. Daniel, bougez pas, on vous parle après. C'est un auditeur qui nous appelle. On va vous donner la parole, bien sûr, 514-790-9850. Et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. On va parler à Tania. Bonjour, vous avez déjà été victime de rage au volant, Tania?
Oui, bon matin. En fin de compte, environ dans l'année 2000, je demeurais à Saint-Sauveur, puis je m'en allais travailler à mon travail qui était à Ville-Saint-Laurent. Mm-hmm. Puis j'étais sur la 13, il n'y avait pas grand monde. Puis tout d'un coup, j'ai eu un monsieur qui s'est mis devant moi, puis qui a mis les freins, puis la boucane noire sortait des pneus. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, Seigneur, ça va pas. Là, je continue à rouler parce que je m'en allais au travail. Là, encore, il ralentit, il met les freins, tu sais, brusquement. Là, je me dis, ben là, il y a un problème. C'est que le monsieur, il part, et je me dis, je m'en vais le chercher. J'ai monté jusqu'à, je pense, 130, 140 pour aller chercher sa plaque d'immatriculation. Ça a donné où que je travaillais à ce moment-là. Je travaillais chez FedEx. Je suis allée à la Sûreté du Québec, puis je suis allée porter plainte. Puis je leur ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Ils m'ont dit de remplir un formulaire, de tout écrire la situation, qu'est-ce qui s'est passé. En fin de compte, ils ont trouvé le monsieur. C'est un homme qui venait de Mont-Roland, qui avait loué une auto. Puis ils ont donné un constat d'infraction.
Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est fait, c'est ça? C'est pas assez sévère, à votre avis, les lois?
Ben, en tout cas, moi, je peux vous dire, là, aujourd'hui, j'en ai 51, j'avais peut-être, tu sais, dans vingtaine, trentaine, là, début, puis j'avais vraiment eu peur, tu sais, je veux dire, j'avais rien fait, là, j'étais sur l'autoroute, puis
il n'y avait aucune
raison, là.
Tout à fait. Merci beaucoup, Tania, de votre témoignage. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour, Isabelle, bonjour à vous, à toute votre équipe. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu ça en 2005. Mm-hmm. Le monsieur, il avait une BMW 2005 flambant neuf, puis moi, j'avais un Ford Explorer 2001. Un soir, je suis sur le boulevard industriel à Laval, et je m'en vais en direction de chez moi, fait que je suis sur Saint-Eséard, direction ouest. Alors, quand on traverse la voie ferrée après le boulevard des Laurentides, c'est seulement qu'une voie. Quand on arrive à l'arrêt stop, ça rouvre dans deux voies. Alors, moi, je fais mon arrêt stop direction ouest, toujours. Et là, le véhicule me dépasse par la droite. Là, j'ai fait le saut, j'ai dit, si arrive quelqu'un à droite, il va rentrer dedans, il va le tuer. Fait qu'on continue notre route, mais moi, j'arrive à la lumière industrielle, la lumière tombe au feu rouge. Là, j'arrive à sa droite. Lui est à ma gauche, fait que je jette un coup d'œil, il me regarde, baisse ma fenêtre, il baisse sa fenêtre de droite. J'ai dit, monsieur, faites attention, stop, vous auriez pu accrocher mon véhicule ou un enfant qui aurait passé. Ça, c'est à 10h le soir. Il dit, veux-tu avoir un coup de poing sur la gueule ou si t'en veux deux? J'ai dit, oubliez ça, monsieur, c'est parfait.
Ah, ouais,
là, la lumière est tombée verte.
Ouais.
Là, il est parti, parce que l'industriel, Saint-Azéar, c'est 6 voies là, avec le terre-plein. Il a traversé l'industriel, puis là, moi, j'ai parti, puis là, il m'a bloqué la route. Mmh. Il a débarqué de son véhicule. Là, moi, j'ai vu que je pouvais passer entre le véhicule puis le trottoir. Ben, c'est une borne de ciment, là. J'ai passé, il a étiré son bras, il a cassé mon miroir d'un coup de poing, le côté gauche.
Oh, mon Dieu!
Là, plus loin, là, je me poussais, j'ai plus de miroir à gauche, là, madame, j'ai passé en cours, ça a pris 5 ans de cours.
Ben oui, j'allais vous demander, vous avez pu prendre sa plaque et puis faire une plainte?
Oui. Parce que lui, il s'attendait pas à ça. Et là, quand j'arrivais, on a passé à peu près à 120 km/h, toutes les lumières rouges sur Saint-Azéar, direction ouest. Jusqu'à la montée Saint-Aubin. Votre, monsieur, il connaît ça, le coin, là?
Oui.
Qui travaille avec vous, en circulation. Et là, là, je le voyais plus. Il était assez proche de moi, je voyais plus les lumières de l'auto. Tout d'un coup, bang! 2 500 $ de dommages dans mon véhicule.
Oh mon Dieu, il vous attendait pour vous rentrer dedans.
Non, non, il me suivait en derrière que je ne le voyais plus.
Ouais, ouais.
Là, à un moment donné, j'ai rendu le bang. Puis là, moi, j'ai traversé la montée Saint-Aubin avec l'élan. Là, il a essayé de me faire prendre le champ sur le trottoir. Là, il a tourné à droite vers le nord sur Saint-Aubin.
Mais ça, merci Jean-François. Écoutez, c'est incroyable, mais ça conclut qu'il y a bien des gens qui utilisent d'ailleurs leur véhicule comme une arme.
Ouais.
Et c'est ça le problème. Là, je pense, Walid, il faut rappeler aux gens ce qu'ils encourent s'ils ont un comportement comme ça qui est... C'est au-delà de la frustration. Là, les gens s'attendent, ils suivent,
un scénario,
ils freinent.
Un scénario comme celui qui vient d'être décrit, là, où on sait où il y a eu un méfait, on a brisé le miroir. Ou plus que ça.
Ça, c'est un méfait.
Briser, donner un coup. Ce qu'on voit souvent, là, c'est, ben, il y a des, lorsque ça atteint un certain niveau de gravité, là, les coups de poing, ça, c'est très certainement un voie de fait. Souvent, dans ma pratique, j'ai vu des coups de poing, des coups de bâton sur la voiture, ça, c'est un méfait. Et dans tous les cas, lorsqu'on atteint ce stade, où est-ce que c'est au-delà de simplement s'insulter, lorsqu'on sort de la voiture et on cherche à faire mal à quelqu'un d'autre, je l'ai dit, je le répète, même si ça sort, même si c'est poursuivi par voie sommaire, même si c'est poursuivi dans une cour municipale, si on est trouvé coupable, ça va être 30 jours de prison, 30 à 45 jours. J'ai vu jusqu'à 90 jours pour des cas qui, à première vue, sont objectivement banals.
Ouais.
Les juges ne tolèrent pas.
Mais il faut que ça se rende devant le juge. Et là, François Doré, bon, on avait Tania tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait fait porter plainte puis elle trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose qui a été fait. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion de porter plainte aussi pour une moto qui vraiment m'a vraiment fait peur, qui a accroché mon miroir il y a très longtemps. Là, je veux dire, tout le monde a une anecdote, je pense. On en a toute une ce matin minimum, au moins une. Et t'appelles, puis t'aimerais qu'il y ait un suivi, puis malheureusement, il y en a... Il n'y en a pas souvent quand il n'y a pas justement véritablement accrochage. Mais si c'est juste d'être enragé au volant, faire peur à quelqu'un, ça devrait quand même être passible de quelque chose. Non, il devrait au moins y avoir un suivi.
Ben, tout à fait, parce que la loi s'applique sous différents codes. Que ce soit le code de la sécurité routière, on peut aller jusqu'à l'article 327, bon, qui dit en gros, là, conduire pas nécessairement sans la prudence et les soins requis, mais mettre en danger la vie d'autrui.
Conduite dangereuse. C'est un gros ticket, c'est un ticket qui fait mal.
C'est au code criminel, ça. Conduite dangereuse, c'est au code criminel. Mais l'article 327 du CSR, c'est 9 points d'inaptitude.
Exact.
Plus loin que ça, oui, on va au code criminel, et là, c'est un dossier. Walid le disait tantôt. Et des histoires, on en entend régulièrement. Récemment, d'ailleurs, quelqu'un qui a parlé à Paul Arcand, une dame qui s'est plainte parce qu'une personne se filmait sur la route en commettant des infractions et elle s'est fait répondre à la police qu'il n'y a pas grand-chose qui pouvait être fait.
Ouais,
bon, évidemment, l'entrevue a été donnée à Paul parce qu'il y a eu de la publicité. Oui, les policiers peuvent toujours faire un constat d'infraction par enquête ou un dossier, s'il s'agit d'un dossier criminel, par enquête. C'est pas évident, c'est pas facile, mais ça se fait.
Ouais. On a Jonathan qui est avec nous. Bonjour, Jonathan. Vous êtes un chauffeur de la STM, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonjour, Isabelle.
Bonjour. Vous pouvez en voir beaucoup, vous, hein?
À tous les jours. Ouais. que ça soit de l'incivilité mineure ou que ça soit une agression, tu sais, je vois plusieurs comportements là, qui sont sur la route qui sont parfois, c'est incroyable, là. Mais la plus grave qui m'est arrivée à moi, j'étais sur le 30 Saint-Denis, Saint-Hubert, ça fait déjà une dizaine d'années là, de ça. Et j'avais un véhicule de stationner dans mon arrêt, ça arrive jamais, ça. Et j'avais une personne qui voulait descendre avec une canne. Donc, il fallait que je sois vraiment proche du trottoir ou autre. Là, mais le véhicule me bloquait l'accès à mon arrêt. Donc, j'ai klaxonné pour qu'il se bouge de là. Mais malheureusement, le monsieur, au lieu de bouger son véhicule, a descendu sa fenêtre pour me faire un doigt d'honneur.
Ah ben ouais.
Et j'ai reklaxonné parce que j'ai une dame qui veut descendre. À ce moment-là, l'homme descend de sa voiture, vient arracher mes essuie-glaces d'après le véhicule.
Mais voyons donc.
Essaye de venir sur le côté de ma fenêtre, de l'ouvrir avec force, mais nous, on a comme une protection pour empêcher que ça soit ouvert involontairement. Là. Il n'a pas été capable de l'ouvrir, sauf à environ un pouce et demi de largeur. Il m'a lancé sa cigarette allumée sur moi.
Ah!
Et en rembarquant dans son véhicule, il s'est sauvé. Moi, j'ai déclenché l'urgence. Les policiers sont venus sur place, tout ça. Mais on n'a jamais été capable de trouver l'homme. J'ai jamais réentendu parler de rien de ça. Et tout ça parce que moi, je voulais descendre une dame à mobilité réduite à mon arrêt.
En plus,
ça prend des proportions alors qu'à la base, c'est tellement banal. Je serais vraiment, vraiment, vraiment intéressé, curieux d'entendre un psychologue sur le phénomène de la rage au volant parce que j'ai l'impression qu'on devient démesurément plus impatient et agressif que dans d'autres situations dans la vie. On perd notre sang-froid beaucoup plus rapidement, j'ai l'impression, lorsqu'on est dans la voiture.
OK, mais là, c'est parce qu'il faut se calmer aussi, Walid. Là, c'est pas juste... Parce que ça, on le dit souvent, puis on dit que la distraction, c'est la première raison qui va faire qu'au volant, on n'ait pas toutes nos facultés. Hein?
Mais là, je veux dire, objectivement, on voit que la personne, elle est handicapée, elle a besoin de descendre de l'autobus.
On a plus de patience. Normalement,
ça serait une situation tout à fait normale, mais parce qu'on l'a perturbé, il était dans son monde, puis il voulait pas se déplacer, c'est une réaction démesurée que
exact.
Si... Une situation analogue, ce serait produit au centre d'achat ou à l'épicerie ou ailleurs. C'est derrière le volant, les gens mesurent pas la portée de ce qu'ils font et s'impatientent beaucoup trop rapidement, j'ai l'impression. Raison pour laquelle il y a autant de dossiers qui se retrouvent en justice.
Oui, on a Marie-Lou avec nous. Bonjour Marie-Lou.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui. Ben moi en fait, j'étais en voiture et puis j'ai tourné à un coin de rue là à 10 km/h même pas là. Et puis il y a un piéton qui passait et en fait quand moi j'ai tourné, le piéton était déjà traversé, mais lui il a sans doute cru que j'ai passé trop près de lui. Et puis là il s'est mis à m'injurer et tout ça, puis là je comprenais comme pas qu'est-ce qui passait, est-ce qu'il va bien ou quoi. Alors j'ai baissé ma vitre, je me suis immobilisée, j'ai baissé ma vitre. Et puis là il s'est mis à m'injurer, t'as passé trop proche. Tu sais, je vous évite là les mots qu'il m'a dit.
Mm-hmm.
Puis par la suite, il s'est avancé vers moi et puis il m'a sacré un coup de poing en plein visage.
Incroyable.
Il m'a complètement agressé, j'étais assise dans ma voiture. J'étais assommée, là. Écoutez, il y avait un piéton qui passait également, là. Tu sais, là, lui, il s'est mis à crier dessus. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, tout ça. Bref, après ça, j'ai communiqué avec les policiers. Ils sont venus me rejoindre et tout ça. Ils ont pris ma déposition, mais en même temps, c'est un piéton. Là, il est rendu où? On sait pas. Fait que, ben, madame, c'est plus votre vitre. Tu sais, je veux dire, débarquez jamais de votre véhicule encore.
C'est incroyable.
Plus, à qui qu'on fait affaire.
C'est peut-être pour ça qu'Elon Musk a décidé de fabriquer un Cybertruck. C'est un véhicule blindé. C'est anti-conducteur enragé. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de monde là, qui attendent pour nous raconter leurs anecdotes. Moi, je veux entendre vos histoires. On n'en revient pas ce matin. Il va quasiment falloir que les politiques s'en mêlent, vraiment. On revient tout de suite après la pause. 514-790-9850. À tout de suite, tout le monde. J'aimerais ça s'il y a un enragé du volant repenti, tiens, qui puisse m'appeler. J'aimerais ça vous parler à Normand, Isabelle, mes recherchistes qui sont au téléphone et qui prennent vos appels. Puis vous dites, je suis un enragé, on va vous mettre en onde tout de suite. Je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui le sont, qui l'admettent quand on leur pose la question. Il y a à peu près 4 ans, il y avait eu un sondage, puis il y avait une personne sur 3 qui admettait qu'elle avait été au moins une fois par mois l'enragée au volant. Donc, des cas de rage parfois, bon, il y a des cas d'incivilité mineure, j'aime bien ce mot de Jonathan, conducteur de la STM, mais bref, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut travailler. On a Stéphane, merci Stéphane. Donc Stéphane, vous avez déjà été enragé au volant?
Bien sûr, bien sûr. J'ai été un terrible méchant garçon. Il y a eu quelques aventures dans le coin où je demeure. Et puis, la police m'a obligé à suivre une thérapie et puis suivre des cours de conduite Smith pour calmer mes ardeurs. Et puis, ça a fonctionné. Maintenant, je roule 95 dans mon camion. J'ai cœur pour personne. Je suis courtois. Je laisse passer le monde. Et puis, je suggère à tout le monde d'aller suivre un bon cours de conduite de courtoisie comme conduite Smith ou quelque chose de semblable. Là, ça aiderait pas mal tout le monde. Là.
Et qu'est-ce qui générait votre âge, Stéphane?
Ah, mon Dieu, faut partir de loin, mademoiselle.
C'est vrai?
Faut partir de loin. C'est au début de la conduite, là, je veux dire, on se croit roi et maître de la route. Et puis, éventuellement, ben, on attrape quelqu'un que lui aussi, il croit qu'il est maître et roi sur la route. Et puis, ça crée des frictions. Ben, beaucoup le manque de courtoisie aussi qui fait que, à un moment donné, le monde s'enrage, il va plus clair, sont dans leur véhicule, dans leur petite maison, comme ceux qui textent au volant. On les klaxonne des fois sur la lumière parce que ça décolle pas. Et c'est comme si on les prendrait à jouer avec le petit corps dans leur garde-robe. Là, ils sortent la main du véhicule puis ils font un finger comme si il avait le droit de faire ça, c'est parce que c'est toutes ces petites choses-là qui créent le trafic. Au début, c'est une seconde, mais à la fin de la lignée, ça peut être 3 minutes qui fait que ça retarde tout le trafic de ces gens-là en ville. Là.
Ouais.
Puis, c'est ça. Non, mais la thérapie, ça a beaucoup aidé.
Mais
puis,
vous avez fait quoi le pire, là, Stéphane? Le geste le plus épouvantable? Sur... Ah, êtes-vous sorti de votre véhicule? Écoute. Avez-vous frappé quelqu'un?
Oui. J'étais pas loin de chez moi et puis le jeune, il s'en allait au cégep 24 ans environ et puis il m'a freiné d'en face. J'avais un véhicule neuf d'une semaine. Il pensait que je le collais au derrière, mais c'est pas ça pantoute. Je m'en allais chez nous, puis lui, il s'est changé de travail sans clignoter, sans mettre son clignotant. Fait que là, il pensait que je le suivais de proche pour l'écœurer. C'était pas ça pantoute. Je voulais juste qu'il avance, puis là, il pensait que je voulais l'écœurer. Fait qu'il freine, il décolle, il fait son stop 25 pieds avant. En tout cas, pour arriver à un moment donné, j'étais rendu quasiment chez moi, il a freiné, j'ai eu un impact avec son véhicule, puis il s'est en allé, il s'est poussé. Mal lui en a pris. J'ai pété sa vitre de côté quand je l'ai rejoint, puis j'ai ramassé ça sur le bord de la marboulette, comme on dit.
Oh, okay.
Puis, ben, juste le fait de casser la vitre de côté, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos là-dessus, là, ça se fait pas tout seul. Et puis, je pense que ça lui a fait peur. Et puis, je pense qu'il recommencera plus, mais c'est pas la façon à employer dans le trafic avec les gens. Là. La meilleure affaire à faire, c'est d'être courtois, puis d'oublier les gens qui sont vraiment percutants là, dans la route, là, sur la route, là, changer de travail. C'est pas de tes affaires. Laisse-le faire. Si tu vois un comportement criminel, là, tu peux appeler la police, en faire un 41-41 ou en pogner un sur le côté du chemin puis l'avertir. Mais tu peux pas faire la loi. Tu peux pas arriver puis dire moi, t'arrangerais ça. Non, ça se fait pas. C'est pas, comme il dit le monsieur, votre intervenant, c'est 45-50 jours de prison. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis à mon compte, puis c'est des pertes de revenus. C'est au moins 1 000 $ par jour.
Vous êtes-vous trouvé niaiseux, Stéphane, finalement?
Maintenant, oui, parce que maintenant, c'est ma femme qui chiale tout le temps.
Ouais.
on a changé de personnalité. Quand j'ai suivi ça, moi, ma femme, à la star, elle trouve que je roule en pépère. Puis, ben écoute, c'est la façon de conduire. Le parc automobile est tellement grand, tellement de gens, puis que les gens aussi, pendant qu'ils suivent le cours de conduite, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le maître est là, ils font toutes les choses comme il faut. Mais un coup que le monsieur à côté, le king, est débarqué, là, c'est lui qui tombe king de son véhicule. C'est là que ça se gâte. Puis c'est vrai qu'il ne monte pas la courtoisie. Tu sais, ralentir, là, il y en a beaucoup camionneur qui ne ralentira pas quand vient le temps d'arriver à un embranchement pour entrer sur l'autoroute. Écoute, c'est la vie des gens qui sont en danger. Eux, ils ne savent pas, mais nous, on le sait. Celui qui conduit le camion, lui, il sait que c'est dangereux, ce véhicule-là. Un pneu peut éclater. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Traînez pas à côté d'un camion. Quand vous passez un camion, dépêchez-vous de le passer, mais restez pas là. Je ne sais pas si quand on est dans le trafic à 20 km/h, c'est une chose, mais à 105, 100 km, moi, je roule seulement 95.
Ah, puis il faut respirer par le nez, Stéphane, on s'entend.
Exact,
d'accord là-dessus.
Si tu ne fais pas ça, c'est ta vie et la vie des autres qui sont en danger. Si tu ne fais pas ça, c'est bien de valeur, mais il y a quelque chose qui va arriver. Puis, les raccourcis, là, c'est jamais bon. C'est là que les accidents arrivent.
Exact.
Ma formation Smith, c'est ce qu'ils nous ont dit.
La formation Smith, vous dites, la conduite Smith, c'est quoi ça exactement, rapidement?
Ben,
là,
ça se trouve être un genre de cours de conduite que je crois que c'est les policiers qui ont ça au niveau poursuite, sécurité et tout. Mais nous, on a suivi juste la portion sécurité. sécuritaire. Je travaillais pour une compagnie qui nous ont payé ce cours-là.
Okay.
À partir de là, déjà, le travail avait commencé à se faire dans ma tête, à dire, écoute, c'est vrai que c'est une arme, c'est une grosse machine, c'est un 53 pieds, t'es en ville, on peut frapper des gens. Les piétons sont pas toujours là pour nous aider non plus. Il y en a une fois à traverser, puis c'était pas elle à traverser, à rentrer dans mon trailer, parce qu'elle textait en même temps. J'étais obligé j'ai arrêté, mais je la voyais, elle continuait à traverser, j'ai arrêté. Puis là, à partir à rire, ben c'est oui, c'est drôle, c'est cocasse. Mais si arrêter en pris en dessous de mes roues de remorque, ça aurait été un petit peu moins cocasse pour moi, un, et pour elle, deux, parce qu'elle peut mourir.
Ouais.
C'est pas une partie de plaisir, la conduite. C'est pas un droit acquis, hein? C'est un privilège qu'on a.
Oui.
Mm-hmm. Il faut toujours garder ça en tête. 15 points, 14 points, ça part vite. Nous, les camionneurs, on est gérés par le PEQVL et puis on est gérés par la SAC.
Ouais.
Fait qu'on a des points au PEQVL, puis on a des points sur notre permis de conduire, qu'on soit privé ou professionnel. Je veux dire, tes points débarquent. Puis à un moment donné, si t'as un camion à payer, t'as une remorque à payer, une hypothèque à payer, puis t'as plus de permis pour travailler, On va aller virer des boulettes chez McDonald's.
Stéphane, merci beaucoup de votre franchise, votre honnêteté, d'avoir pris le temps de nous parler. Et surtout, merci d'être aujourd'hui un conducteur courtois qui a compris sa leçon. Et ça me permet, j'ai regardé là sur Internet parce qu'on connaissait pas ça personne, même François Doré. François, t'es pas au courant de ce système-là, mais ce que je lis, c'est que t'as un système de formation qui est un programme qui a été développé par Harold Smith, qui était un pilote d'amélioration. Il a créé ça dans les années 50, fin 1948, début 50. Et c'est offert aux entreprises. Ce que je comprends, c'est un cours privé là, pour ceux qui ont des flottes de véhicules, conduite des écoles, organismes gouvernementaux. Il y a 5 concepts clés du système de Smith afin de voir et d'éviter les dangers de la conduite. Alors, c'est intéressant. On aura l'occasion sans doute de s'en reparler parce que je pense que c'est un phénomène tellement important, ça. Merci beaucoup, François Doré, patrouilleur, ex-patrouilleur Sûreté du Québec à la retraite. Merci beaucoup, Walid Ijazi. Peut-être 10 secondes, Walid, pour nous rappeler que
comme l'intervenant vient de le dire, conduire est un privilège, c'est pas un droit. On doit se mériter un permis, ça vient avec des règles et soyons civils sur les routes, s'il vous plaît.
Ouais, puis on laisse faire les fuck you à celui qui est à côté de nous. Non, mais sérieux, on n'en peut plus.
Ouais.
On n'en peut plus. On va s'arrêter ici. Notre prochain sujet est presque un peu lié parce que finalement, on parle de civilité, de patience, de tolérance. Je voulais saluer aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées. Vous posez la question, est-ce qu'il y a encore de la discrimination envers les personnes handicapées? Je vous rappelle cette semaine tout le débat Mike Ward et le petit Jérémy. On a Martin Deschamps et Anne Lagacé-Dawson tout de suite après la pause qui nous donnent leur avis.